If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's Rakuten. Rakuten.com.
À ma mère, de Théodore de Banville. Enregistré pour LibriVox.org. Ô ma mère et ma nourrice, toi dont l'âme protectrice me fit des jours composés avec un bonheur si rare, et qui ne me fut avare ni de lait ni de baiser. Je t'adore, sois béni. Tu berças dans l'harmonie mon esprit aventureux, et loin du railleur frivole, mon ode aux astres s'envole. Sois fier, je suis heureux. J'ai vaincu l'ombre et le doute. Qu'importe si l'on écoute avec dédain, trop souvent, ma voix par les pleurs voilée, quand sur ma lyre étoilée, tu te penches en rêvant. Va, je verrai sans envie que le destin de ma vie n'ait pas pu se marier aux fortunes éclatantes, pourvu que tu te contentes d'un petit brin de laurier. Fin de À ma mère, enregistré par Margot. Cet enregistrement appartient au domaine public. À plus d'un, d'Auguste Brizeux. Enregistré pour LibriVox.org. Dans ton intérêt, ne te corromps pas. Ta jeunesse aima les plus belles choses. L'art, la liberté, fleurs au ciel éclose. Épargne ces fleurs tombant sous tes pas. Obscurci longtemps par une colline, ton astre rayonne et prend son essor. Hélas, dirons-nous devant l'astre d'or. L'esprit monte au ciel et l'âme décline. Pour bien achever votre double cours, il faut, noble esprit, il faut, ô belle âme, l'un à l'autre, unis, flamme dans la flamme, monter vers le ciel et monter toujours. Fin de « À plus d'un » enregistré par Margot. Cet enregistrement appartient au domaine public.
L'âne vêtu de la peau du lion par Jean de La Fontaine. Enregistré pour LibriVox.org. De la peau du lion, l'âne s'étant vêtu, était craint partout à la ronde. Et bien qu'animal sans vertu, il faisait trembler tout le monde. Un petit bout d'oreille, échappé par malheur, découvrit la fourbe et l'erreur. Martin fit alors son office. Ceux qui ne savaient pas la ruse et la malice s'étonnaient de voir que Martin chassa les lions au moulin. Force gens font du bruit en France, par qui cet apologue est rendu familier. Un équipage cavalier fait les trois quarts de leur vaillance.
Note Martin Bâton. Fin du poème, enregistré par Christiane Johan. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Après l'hiver, de Victor Hugo. Enregistré pour LibriVox.org. Tout revit, ma bien-aimée. Le ciel gris perd sa pâleur. Quand la terre est embaumée, le cœur de l'homme est meilleur. En haut, d'où l'amour ruisselle, en bas, où meurt la douleur, la même immense étincelle allume l'astre et la fleur. L'hiver fuit, saison d'alarme, noir avril mystérieux, où l'âpre sève des larmes coule et du cœur monte aux yeux. Ô douce désuétude, de souffrir et de pleurer, Veux-tu dans la solitude nous mettre à nous adorer? La branche au soleil se dort et penche pour l'abriter, ses boutons qui vont éclore sur l'oiseau qui va chanter. L'aurore où nous nous aimâmes semble renaître à nos yeux. Aimé sourit dans nos âmes comme il sourit dans les cieux. On entend rire, on voit luire tous les êtres tour à tour. La nuit les astres bruire et les abeilles le jour. Et partout nos regards lisent, et dans l'herbe et dans les nids, de petites voix nous disent, les aimants sont les bénis. L'air enivre, tu reposes à mon cou tes bras vainqueurs. Sur les rosiers, que de roses, que de soupirs dans nos cœurs. Comme l'aube, tu me charmes, ta bouche et tes yeux chéris ont, quand tu pleures, ses larmes et ses perles quand tu ris. La nature, sœur jumelle d'Ève et d'Adam et du jour nous aime, nous berce et mêle son mystère à notre amour. Il suffit que tu paraisses pour que le ciel t'adorant te contemple et nos caresses, toute l'ombre nous les rend. Clarté et parfum nous-mêmes, nous baignons nos cœurs heureux dans les effluves suprêmes des éléments amoureux. Et sans qu'un souci t'oppresse, sans que ce soit mon tourment, j'ai l'étoile pour maîtresse, le soleil est ton amant. Et nous donnons notre fièvre aux fleurs où nous appuyons nos bouches et notre lèvre, sans le baiser des rayons. Fin de Après l'hiver, enregistré par Margot. Cet enregistrement appartient au domaine public.
L'hôtel de André de Guerne, enregistré pour LibriVox.org. L'hôtel. Kyrina de Idil a recueilli les restes du vieux temple gisant sur le sol paternel, et, la nuit, à l'écart, a de ses mains modestes, pour la Dame des Eaux, rebâti cet hôtel. Déesse Anaïta, qu'un siècle ingrat exile, ô vierge ruisselante, aux flots jamais taris, ô pure, Kyrina t'offre cet humble asile où ta source peut naître et chanter à l'abri. La forme en est grossière, et si la brique est terne, c'est que le feu chrétien en lécha les morceaux. Mais la frise est intacte où sur les mailles alternes le baresma mystique avec la fleur des eaux. Est-ce un hôtel, hélas, un tertre bas à peine, caché par les roseaux courbés au vent du soir? C'est ton dernier refuge où, près de la fontaine, ta dernière prêtresse aime encore à s'asseoir. Elle y revient songer aux époques fécondes où, reflétant l'azur limpide et sans limon, le torrent adoré de tes célestes ondes s'est penché librement de la hauteur des monts. Et tu transparaissais dans la mouvante écume comme la lune blanche en un ciel nuageux, légère, éblouissante, et sémant dans la brume les diamants épars sur tes deux seins neigeux. Et c'est toi qui fuyais et qui versais ton urne dans mille ruisseaux bleus, fils des lacs assoupis, et qui venais suspendre, invisible et nocturne, des perles de rosée aux pointes des épis. L'homme d'un cœur pieux honorait le mystère de tes larmes d'azur filtrant du sol sacré, et puisait chaque jour dans ton cours salutaire la virile vigueur d'un corps régénéré. Maintenant, l'ombre triste éteint tes clartés fraîches, et le culte est fini des sources et des flots, que Mitra matinale criblait de roses flèches, les eaux ne baisent plus le bord des bassins clos. Mais tu vivras ici, toujours utile et pure, ô très sainte, ô maîtresse, ô reine aux yeux changeants, fluide, inépuisable, et bonne et sans souillure, et chère à Kyrina, prompte aux soins diligents. D'un murmure plus doux charmant la jeune aurore, près du rustique autel, caché par les roseaux, des vertes profondeurs, tu jailliras encore, dans la coupe en ruine où boivent les oiseaux. Et quand la nuit royale enfin tendra ses voiles, dérobant les joyaux du ciel splendide et noir, tu feras dans ton sein ruisseler les étoiles et les astres divins fleurir dans ton miroir. Fin du poème. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Belle santé, d'Émile Verhaeren. Enregistré pour LibriVox.org. Belle santé, qui me revient après m'avoir quitté. Voici mon front, mes bras, mes épaules, mon torse, qui tressaille une fois encore, à te sentir rentrer et revivre en mon corps avec ta force. Je me détends et je me plais, au moindre geste que je fais. Mon pas nerveux et volontaire, avec ardeur, s'appuie et se meut sur la terre. Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils, mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne, en ma course rythmée à travers la campagne. L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. Mes nerfs semblent refaits, mes muscles sont heureux, et ma bouche joyeuse et mes mains familières voudraient saisir l'espace et baiser la lumière. Belle santé, je suis ivre de fougue et de témérité. Sans toi, je ne pourrais jamais dompter la vie, selon mon vouloir brusque et mon tenace espoir. Je suivrai un chemin qui tourne et qui dévie, et m'assoirai, là et vaincu, avant le soir. Le feu rapide et fort dont notre âge flamboie n'allumerait en moi ni vaillance, ni joie. Et j'aurais peur de la splendeur de l'univers. Tu m'es, belle santé, celle qui me décide à rester prompt et comme allègre en mes revers, à pénétrer d'orgueil ma cervelle lucide. Dès que l'entraîne en ses combats l'effort humain, belle santé, nourris mes bras, muscle mes mains, emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine. Et pour que jusqu'au bout mon cœur se tienne haut, brille en mes yeux, bat sous mon front, brûle en mes veines et court en moi comme le vent dans les drapeaux. Fin de Belle Santé, enregistré par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Le berger et la mère, par Jean de La Fontaine. Enregistré pour LibriVox.org. Du rapport d'un troupeau dont il vivait sans soin, se contenta longtemps un voisin d'Amphitrite. Si sa fortune était petite, elle était sûre, tout au moins. À la fin, les trésors déchargés sur la plage le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrage. Son maître fut réduit à garder les brebis, non plus berger en chef, comme il était jadis, quand ses propres moutons paissaient sur le rivage. Celui qui s'était vu, Coridon ou Tircis, fut Pierrot, et rien davantage. Au bout de quelque temps, il fit quelque profit, racheta des bêtes à laine, et comme un jour les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux, « Vous voulez de l'argent ?» « Oh, mesdames les eaux, dit-il, adressez-vous, je vous prie, à quelque autre. Ma foi, vous n'aurez pas le nôtre. » Ceci n'est pas un conte, à plaisir, inventé. Je me sers de la vérité, pour montrer, par expérience, qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que cinq, en espérance, qu'il se faut contenter de sa condition, qu'au conseil de la mère et de l'ambition, nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, 10 000 s'en plaindront.
La mer promet monts et merveilles. Fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront.
Fin du poème enregistré par Christiane Jehan. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Le chat, la belette et le petit lapin, de Jean de la Fontaine. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette un bon matin s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates, un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeanne Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Oh, dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Holà, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, ou je vais avertir tous les rats du pays !» La dame en est pointue, répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre, qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume ? Je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi ? Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. « Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage ? Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. » C'était un chat, vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatte mite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge l'agré. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippe-Minot leur dit « Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans en songent à cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée il vit les contestants, Grippe-Minot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord, en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Fin de « Le chat, la belette et le petit lapin » enregistré par Cocotte. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Conseil de Théodore de Banville, enregistré pour LibriVox.org. Eh bien, mets ta vie à la verte forêt, escalade la roche aux nobles altitudes, respire et libre enfin des vieilles servitudes, fuis les regrets amers que ton cœur savourait. Dès l'heure éblouissante où le matin paraît, marche au hasard, gravis les sentiers les plus rudes, va devant toi, baisé par l'air des solitudes, comme une biche en pleurs qu'on effaroucherait. Cueille la fleur agreste au bord du précipice, regarde l'antre affreux que le lierre tapisse, et le vol des oiseaux dans les chênes touffus. Marche et prête l'oreille en tes sauvages courses, car tout le bois frémit, plein de rythmes confus, et la muse, aux beaux yeux, chante dans l'eau des sources. Fin de conseil, enregistré par Margot. Cet enregistrement appartient au domaine public.
La fille de Jean de la Fontaine, enregistré pour LibriVox.org. Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari, jeune, bien fait et beau, d'agréable manière, point froid et point jaloux. Notez ces deux points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir ? Le destin se montra soigneux de la pourvoir. Il vint des parties d'importance. La belle les trouva trop chétifs de moitié. « Quoi ? Moi ? Quoi ? Ces gens-là ? L'on radote, je pense. À moi les proposer ? Hélas, ils font pitié. Voyez un peu la belle espèce. L'un n'avait en l'esprit nulle délicatesse, l'autre avait le nez fait de cette façon-là. C'était ceci, c'était cela, c'était tout. Car les précieuses font dessus tout les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Elle de se moquer. Ah, vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte. Ils pensent que je suis fort en peine de ma personne. Grâce à Dieu, je passe les nuits sans chagrin, quoique en solitude. La belle se sut gré de tous ses sentiments. Là, je la fis déchoir. Adieu, tous les amants. Un an se passe, et deux avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite. Elle sent chaque jour déloger quelques ris, quelques jeux, puis l'amour, puis ses traits choquer et déplaire, puis sans sorte de phare. Ses soins ne purent faire qu'elle échappât au temps, cet insigne larron. Les ruines d'une maison se peuvent réparer. Que n'est cet avantage pour les ruines du visage ? Sa préciosité change alors de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari !» Je ne sais quel désir le lui disait aussi. Le désir peut loger chez une précieuse. Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin tout aise et tout heureuse de rencontrer un malotru. Fin 2. La fille, enregistrée par Cocotte. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
L'hospitalité romance de Fabre d'Églantine. Enregistré pour LibriVox.org. Il pleut, bergère. Presse tes blancs moutons. Allons sous ma chaumière, bergère, vite, allons. J'entends sur le feuillage l'eau qui tombe à grand bruit. Voici, voici l'orage. Voilà l'éclair qui luit. Entends-tu le tonnerre? Il roule en approchant. Prends un abri, bergère, à ma droite, en marchant. Je vois notre cabane. Et tiens, voici venir ma mère et ma sœur Anne, qui vont l'étable ouvrir. Bonsoir, bonsoir, ma mère, ma sœur Anne, bonsoir. J'amène ma bergère près de vous pour ce soir. Va te sécher, mamie, auprès de nos tisons. Sœur, fais-lui compagnie. Entrez, petit mouton. Soignons bien, ô ma mère, son tant joli troupeau. Donnez plus de litière à son petit agneau. C'est fait. Allons près d'elle. Eh bien, donc te voilà. Encorsée, qu'elle est belle, ma mère. Voyez-la. Soupon, prends cette chaise, tu seras près de moi. Ce flambeau de Meulaise brûlera devant toi. Goûte de ce laitage, mais tu ne manges pas. Tu te sens de l'orage, il a lassé tes pas. Eh bien, voilà ta couche. Dors-y jusqu'au jour. Laisse-moi sur ta bouche prendre un baiser d'amour. Ne rougis pas, bergère. Ma mère et moi, demain, nous irons chez ton père lui demander ta main. Fin de l'hospitalité romance, enregistrée par Margot. Cet enregistrement appartient au domaine public.
Lait d'Équitan, de Marie de France. Enregistré pour LibriVox.org. On ne saurait exprimer combien les anciens Bretons de la petite Bretagne étaient nobles de vie et de mœurs. Ils avaient la coutume, pour rappeler les belles actions, de mettre par écrit les aventures qui arrivaient de leur temps, ou qu'ils entendaient raconter. Lorsqu'elles offraient des faits intéressants, ils s'empressaient d'en faire un lait, afin que l'exemple n'en fût pas perdu pour la postérité. En effet,
celui-ci étant fort curieux, je veux qu'il ne soit pas oublié. Je veux donc rapporter le lait d'Équitan, roi de Nantes, homme sage, courtois et loyal, que ses bonnes qualités avaient fait chérir de tous ses sujets. Par la raison qu'il aimait l'amour et les plaisirs qu'il procure, il n'est pas besoin de demander s'il était bon chevalier. Équitan se livrait trop au plaisir d'aimer, ce qui parfois lui faisait commettre des imprudences. Tels sont ceux qui d'amour sont épris. Ils ne gardent aucune mesure et perdent entièrement la raison. Le sire de Nantes avait pour sénéchal un chevalier loyal et brave, qui commandait en son absence et rendait la justice en son nom. Ce n'est pas qu'Équitan, pour remplir ses devoirs, n'abandonna souvent la chasse, la pêche et les autres plaisirs. Ce sénéchal épousa une femme qui causa bien des chagrins au pays. La dame est aussi belle, aussi bien faite qu'elle est aimable. L'ensemble de ses qualités est telle que pour la former, la nature fit un prodige. Elle avait des yeux bleus, la figure charmante, le nez bien fait, la plus jolie bouche. Enfin, qu'il vous suffise de savoir que le royaume ne pouvait offrir une pareille beauté. Équitan avait plusieurs fois entendu faire l'éloge de cette femme, plusieurs fois aussi il l'avait vue, saluée, et lui avait fait même quelques présents. Le roi, la trouvant à son gré, désira lui parler en secret. Pour être plus à son aise, il alla chasser dans le pays où le sénéchal faisait sa résidence, puis alla coucher au château. Dans l'entretien qu'il eut avec la dame, Équitan ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle était aussi sage que belle, mais, l'ayant regardée trop attentivement, l'éclat de ses charmes embrasa le monarque des feux les plus ardents. Amour l'assujettit à ses lois et le blessa d'une flèche qui, l'atteignant au cœur, lui fit une blessure profonde que rien n'aurait pu guérir. Il est tellement épris des attraits de sa belle qu'il devient morne et pensif. Il ne fait plus rien, il n'entend rien pendant le jour, et pendant la nuit, il ne peut sommeiller. Il se reproche ses amours. « Hélas, dit-il, pourquoi le sort m'a-t-il conduit dans ce château ? La vue de cette beauté me cause un tourment affreux. Je tremble en sa présence. Jusque à quand l'aimerais-je ainsi ? Mais en l'aimant, je commets un crime. N'est-elle pas la femme de mon sénéchal ? Je dois à ce dernier la foi et l'amour que je serais en droit d'exiger de lui. Ne pourrais-je pas trouver quelque moyen pour connaître la pensée de la dame que j'adore, car je suis trop malheureux de souffrir tout seul. Il n'est point de belle femme, tant méchante soit-elle, qui ne veuille aimer ou faire un amant, car enfin, que serait sa courtoisie si elle n'aimait tendrement ? Non, il n'est point de femme sur la terre qui ne sacrifie à l'amour. Si mon sénéchal vient à connaître mes sentiments pour sa moitié, il ne pourra pas en être fâché, car il ne doit pas certainement la garder pour lui seul. Puis, enfin, je le renverrai et me séparerai de lui. » Après ces réflexions, Équitan soupira et se prit à dire « Parbleu, je prends bien de la peine d'avance, puisque je ne sais pas encore si la belle veut m'accepter pour ami. Mais dès aujourd'hui, je saurai si elle partage mes sentiments. Je perdrai, je l'espère, ce chagrin qui m'accable nuit et jour, sans me laisser un instant de repos. » Le jour que le prince attendait avec tant d'impatience vint enfin apparaître. Aussitôt, il se lève et part pour la chasse, mais il ordonne bientôt de rentrer sous le prétexte d'une indisposition. Il monte dans son appartement et se couche. Le sénéchal, vivement affecté de cette indisposition subite, est loin de penser que sa femme soit la cause de la maladie de son prince. Il est tellement persuadé du contraire qu'à la prière de ce dernier, il invite sa femme à venir tenir compagnie à son hôte, afin de le distraire. Dès l'instant où ils sont seuls, Équitan découvre son amour à la belle. Il lui apprend qu'il meurt pour elle, et que, dans le cas où ses vœux seraient rejetés, il se donnera la mort. La dame, surprise, lui dit aussitôt « Sire, excusez-moi si je ne réponds pas sur le champ à votre question. Elle est embarrassante et demande réflexion. Vous êtes trop riche et de trop haute naissance pour m'offrir vos vœux. Lorsque vous aurez satisfait vos désirs, je sais, à n'en pouvoir douter, que vous m'abandonnerez. Je serais trop malheureuse si je venais à vous aimer et à vous accorder votre demande. Il ne convient pas que nous nous attachions l'un à l'autre. Vous êtes un seigneur puissant et mon mari, votre vassal, est trop au-dessous de votre dignité pour que vous espériez et que vous n'ayez point songé à cette difficulté. D'ailleurs, sire, L'amour n'est heureux qu'entre gens de conditions égales. Mieux vaut un homme peu favorisé des dons de la fortune s'il joint la prudence à la valeur. Ses vœux sont plus agréables à recevoir que ceux d'un prince ou d'un roi, personnage bien rarement fidèle. Qui aime dans une classe plus élevée fait bien. L'homme riche et puissant ne croit pas qu'on puisse lui enlever sa mie et pense que celle-ci doit l'aimer à cause de sa naissance et de ses privilèges. « Ah, madame, répondit Équitant, ce que vous me dites n'est pas aimable. Permettez-moi de vous faire observer que les exemples que vous me citez sont des dictons de bourgeois qui placent toujours mal leur affection. J'oserais vous dire qu'il n'est aucune femme bien née qui, si elle n'est point changeante et qu'elle veuille aimer, n'accorde sa tendresse à un prince et ne l'aime véritablement. Quant à ces grands seigneurs qui, par goût du changement, courent de belle en belle, ils doivent être vilipendés, ainsi qu'il est arrivé à plusieurs. D'ailleurs, il est juste de tromper un trompeur. Ainsi, belle dame, je vous en supplie, ne regardez pas à mon rang, mais prenez-moi pour votre homme lige et pour votre ami. Je vous promets et vous jure de faire entièrement votre volonté. Ne me laissez pas mourir. Vous serez ma dame et moi votre esclave. Vous commanderez et j'obéirai. Enfin, après toutes les protestations et les assurances d'un amour éternel, la dame lui accorda sa demande. Ils échangèrent leurs anneaux, se donnèrent mutuellement leur foi qu'ils tinrent. Ils s'aimèrent tendrement jusqu'à leur mort, qui arriva le même jour. Ce commerce dura fort longtemps, sans être aperçu. Et lorsque, Équitant, voulait entretenir en secret sa maîtresse, il annonçait aux gens de sa maison qu'ayant besoin d'être saigné, il désirait être seul et qu'on ne laissât entrer personne. Quel eût été l'homme assez osé pour enfreindre les ordres du souverain et pour entrer s'il n'eût été appelé? Pendant ce temps, le sénéchal tenait la cour, jugeait les procès, écoutait les réclamations. Aussi le prince l'estimait-il autant qu'il aimait la dame. Cependant, il apprit que ses barons et ses sujets le blâmaient de ce qu'il ne prenait pas une compagne. Ces bruits parvinrent à l'oreille de la femme du sénéchal, qui craignait de perdre son amant. La première fois qu'elle vit Équitant, au lieu de jouer et d'user des plaisirs qu'amour procure, la dame pleure et se désole. Équitant s'empresse de lui demander le motif de son chagrin. « Seigneur, je pleure pour nos amours, dont la fin me fera mourir de douleur. D'après la demande de vos vassaux, vous allez m'abandonner pour vous marier avec quelque princesse. Je le sais, j'en suis certaine, et moi, malheureuse, que vais-je devenir? J'aime mieux la mort que de vous perdre, car je ne connais aucun autre remède à mes maux. » « Belle amie, rassurez-vous, lui dit le roi avec tendresse. Soyez certaine que jamais je ne vous quitterai pour une autre femme, et je vous promets que dans le cas où vous deviendriez veuve, vous partagerez mon trône et ma puissance. » La dame remercia Équitant de l'assurance qu'il venait de lui donner, surtout de ce qu'il ne prendrait point d'autre femme. Et puisqu'il en était ainsi, elle allait aviser au moyen de se défaire de son époux, chose fort aisée dans le cas où son amant voudrait l'aider. Équitant répondit qu'il était prêt à faire tout ce qu'elle lui ordonnerait. « Eh bien, sire, venez chasser dans notre forêt, vous logerez au château. Puis, 3 jours après vous être fait saigner, vous prendrez un bain. Mon mari en fera autant. Vous aurez soin qu'il vous tienne toujours compagnie. Pendant ce temps, je ferai apprêter les baignoires et les bains. Je tiendrai celui de mon mari si chaud que personne ne pourrait le supporter. Enfin, à peine y sera-t-il entré qu'à l'instant même, il aura cessé de vivre. Aussitôt cet événement, vous manderez vos hommes et les siens pour leur montrer que mon mari est mort subitement dans le bain. » Équitant approuva ce projet et lui promit de concourir à son exécution. 3 mois s'étaient à peine écoulés que le roi alla chasser, comme il en était convenu. Il se fait saigner de concert avec son sénéchal. Équitant prévient qu'ils se baigneront au bout de 3 jours. En effet, la dame fait apporter les cuves devant les lits et n'oublie pas l'eau bouillante pour la baignoire où son mari devait entrer. Le sénéchal étant sorti pour quelques affaires, sa femme vint parler au prince qui la fit placer à côté de lui, sur le lit du mari, et, pour être plus en sûreté pendant qu'ils prenaient leurs ébats, la porte était gardée par une jeune fille. Le sénéchal s'empresse de revenir, frappe à la porte de son appartement, mais la jeune fille la retenait. En colère de ce retard, il frappe de nouveau avec tant de violence qu'il fallut enfin lui ouvrir. En entrant, il trouva le roi et sa femme couchés dans le même lit, et quittant, voyant arriver le sénéchal, honteux d'avoir été surpris, sort du lit à la hâte, saute à pieds joints dans l'une des cuves. Pour son malheur, il se précipite dans celle qui était remplie d'eau bouillante, et il y périt aussitôt. Ainsi, le mal qu'il voulait faire est entièrement retombé sur lui. Le sénéchal connut alors l'intrigue et les projets de sa femme. Furieux d'avoir été trompé, il la prend et la jette, la tête la première, à côté de son suborneur. Ainsi périrent les deux amants, d'abord le prince, puis son ami. L'homme raisonnable verra, par ce que je viens de raconter, la vérité de cet argument. Tel cherche le mal des autres, qui en est atteint le premier. De cette aventure, comme je l'ai dit, les Bretons ont fait le lait des quittants et de la dame, son amie. Fin du poème, enregistré par Christiane Jehan. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
When we started writing our thoughts down on paper, it opened up endless possibilities. Ideas could grow beyond the borders of the mind, and it changed the world. Somewhere along the way, we lost touch with paper, distracted by devices made for every purpose except for thinking and focus. On edge, waiting for the next notification. But what if new technology didn't pull us away from paper, but brought us closer to it? Listen. That's not paper. It's the sound of the new Remarkable Paper Pro, rewriting the future. A paper tablet with a true color ink display, gentle reading light, and unheard of tactility. With digital features for taking notes, thinking, and organizing, without any distractions. Paper is about to change the world again. Get your paper tablet at remarkable.com today.